Histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Déjà début juillet, Bernard Vacherot, et on continue cette émission. Alors la semaine dernière,
oui,
vous ouvriez une espèce, comment dire, de...
d'historique de... sur la chevalerie, la cavalerie.
Voilà, et vous avez sûrement de bonnes raisons pour nous amener ça dans l'histoire du monachisme. On est impatients
Tout
de
à fait, parce que, justement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans l'art, dans l'iconographie, dans la liturgie, dans la symbolique, mais aussi... dans la vie pratique de tous les jours, le cheval entre en thème. Si le cheval entre en thème, forcément le cavalier aussi. C'est comme dans le psaume, cheval et cavalier, il les jette à la mer. Bon. Eh bien, vous voyez ça dans les chapiteaux des églises, les fresques, etc. Donc, on ne peut pas nier l'arrivée du cheval. Et en plus... il arrive dans des institutions d'ordre chevaleresque, telles que par exemple les Templiers, telles que l'ordre de Malte, telles que l'ordre teutonique et tutti quanti.
Et le cheval va rester l'apanage d'une certaine catégorie sociale, ce qui fait que les paysans, pour la charrue, se contenteront de bœufs.
Tout à fait. Et c'est là... un point intéressant à soulever, la sociologie du cheval.
C'est parti.
Eh bien, avant d'entrer dans la sociologie du cheval, évoquons aussi une autre religion pour laquelle le cheval aura une influence énorme. Ce sont les figurations musulmanes, et tout particulièrement les figurations de Muhammad, monté sur un cheval à la conquête des incroyants. Alors cela se trouve en particulier dans les livres persans. N'en soyez pas étonnés, car si l'islam officiel interdit la figuration humaine, il permet la figuration animalière, végétale, etc., n'oubliez pas que les persans étaient des ismaélites. Bon.
Je vais faire un calembour, c'est des persans arabes.
Oh là, bravo, bon. Alors c'était des ismaélites, c'est-à-dire qu'il y avait une vision différente du Coran et de l'islam. Alors c'est ainsi que cheval et chevalier, ben oui, n'oublions pas à propos des ismaélites, n'oublions pas le vieux de la montagne chez les Hachichines. Bon, et ces Hachichines, eh bien, allaient à cheval. Bon, alors c'est ainsi que, ça c'était au XIIe, XIIIe siècle, c'est ainsi que cheval et chevalier ont fait progressivement partie de l'univers religieux et mythique chrétien, juif, musulman, et disons, d'une manière générale, grec et romaine.
Oui, on se souvient du cheval de Troie. Fallait-il l'idolâtrer pour le laisser entrer?
Eh oui, même si un auteur bien connu a pu écrire « La guerre de Troie n'aura pas lieu », hein? Eh bien oui, voilà. Mais au cours des siècles qui nous intéressent, cheval et chevalier ne furent pas seulement auréolés de légendes et de mythes, ce furent aussi des combattants bien réels, souvent animés de sentiments nobles et évangéliques, mais aussi motivés par le lucre, la luxure, l'orgueil, le désir et la puissance, comme le montre, par exemple, de manière remarquable, Amin Marlouf dans son ouvrage « Les croisades vues par les Arabes », ou bien, comme le montre encore Hélène Carrère d'Ancos, dans son ouvrage « Empire romain d'Orient », ou bien encore, comme ce troisième auteur très documenté, qu'est le père Jean Corbon, dans son ouvrage intitulé « L'Église des Arabes » aux éditions Le Cerf, collection Rencontre, Paris 1977. Bon, on pourrait citer des tonnes d'autres auteurs dans la même ligne. Consciente des richesses spirituelles, mais aussi des dangers et perversions de la chevalerie, l'Église a voulu christianiser cette institution en créant un sacre des chevaliers en une cérémonie où rituel religieux et cérémonial militaire se mêlaient tout en gardant leurs prérogatives propres et particulières. Ce fut le rituel dit du serment que tout futur chevalier dut prêter dans la chapelle du château devant l'autel avec le Saint-Sacrement. L'aumônier, le chapelain, et le seigneur du château, commandant l'armée dont le futur chevalier allait faire partie et auquel il devait prêter serment d'obéissance et de fidélité. Ce rituel, qui sous bien des aspects eut un caractère extrêmement initiatique et ésotérique, inspiré de rites d'origine celtique, mêlé à d'autres d'origine orientale, surtout à partir des premières croisades de 1096 à 1099 pour la première et de 1147 à 1149 pour la seconde et enfin de 1189 à 1192 pour la troisième et je ne parle pas des autres qui ont eu lieu par la suite. Eut un impact particulièrement important sur la culture, la religiosité, les arts et la vie littéraire du Moyen-Âge. Or, les moines furent loin d'être étrangers à ce mouvement militaro-religieux. Bien au contraire, ils y eurent une très grande part. Dans son austérité de vie et sa richesse spirituelle, le moine est très proche de l'idéal militaire et chevaleresque. Disons par exemple que Saint Bernard, grand fondateur de l'abbaye de Clairvaux, fut l'initiateur, le lanceur, peut-on dire, spirituel des Templiers. Eh oui, n'oublions pas qu'il a été leur grand, on va dire, protecteur spirituel, Alors, c'est dans ces ordres religieux que l'on choisissait le plus souvent les chapelains des châteaux ou les aumôniers aux armées. Alors, aumôniers aux armées, je dois dire que l'aumônerie aux armées avait été instituée au IXe siècle par Charlemagne. Charlemagne avait instauré cela pour le moral des armées, voulant que les aumôniers redressent le moral de ces hommes. Habitués à une austérité de vie, ils furent proches des soldats et supportèrent ainsi la vie des camps lors des combats. Ils surent parler le langage des rudes guerriers et partager leur vie tout en essayant de les évangéliser et d'adoucir leurs mœurs et manières le plus souvent barbares et brutales, pillages, viols, tueries, cruautés, sacrilèges, etc. Ils eurent aussi la lourde tâche d'évangéliser seigneurs et chefs militaires, guère plus profondément christianisés que le commun de leurs soldats, et souvent tout aussi ignorants, voire pire encore, tout à fait illettrés et grossiers. Si certains moines tombèrent eux-mêmes dans ces travers, car cela arriva, on le sait, certains romans médiévaux nous le montrent. La majorité d'entre eux furent de saints exemples pour leurs hommes et poursuivirent une œuvre évangélisatrice qui eut de réels impacts dont bénéficièrent les plus humbles.
coiffé d'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères. Hier, dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. 50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait aux vieux aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait et crachait à table. Tout en mâchonnant un mégot, il y allait de son bavardage. Il ne parlait que de cargo, de tangpita et d'abordage. Mais les petits-enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriaient grand-père, ce beau pré, c'est-il amer ou Maison Lafitte? Grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval, vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas un viral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire, et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment à plutôt, vous avez connu grand-mère, comment à Paris, le soir du Grand Prix, vous êtes foutu la gueule par terre. Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer, vous n'êtes pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval.
Après Georges Brassens la semaine dernière, Charles oui. Trenet cette semaine.
Ben tu vois, formidable. Hein,
vous oubliez votre cheval, bon voilà, comme vous faisiez un détour par la cavalerie grecque.
Ben oui, mais non, mais on n'oublie pas son cheval chéri, voyons, allez. Hein. Bon, le cheval moderne, c'est la moto maintenant. Alors, eh bien, les chevaliers avaient précisément, entre autres rôles et dans leur serment, le vœu et l'obligation de défense de la veuve et de l'orphelin. Bon, on le dit aujourd'hui avec un peu d'ironie, est souvent injustifié, en se moquant de cette phrase, la veuve et l'orphelin. N'oublions pas que la veuve, au Moyen-Âge, était souvent maltraité et l'orphelin abandonné.
Oui, il n'y avait pas de pension de reversion et toutes ces sortes de choses.
Rien de tout ça. Il y avait des œuvres sociales chrétiennes, mais avant d'en bénéficier, c'est que le gars était tombé vraiment dans la misère. Bon, vous savez, n'oublions pas de l'auteur de David Copperfield, comment s'appelle-t-il
Charles Dickens?
Charles Dickens. N'oublions pas Oliver Twist.
Me faites pas jouer au jeu des mille, là.
Oui, non, mais n'oublions pas... oui, excusez-moi. Non, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. Oublions pas, mais ce qui montre au public la spontanéité de notre émission. Bon, Charles Dickens, qui, dans Oliver Twist, nous montre un enfant qui a été totalement abandonné, et qui tombe aux mains de gens absolument sordides dans le vieux Londres. Bon, eh bien, pour permettre que... Et ça, c'était au 19e, hein, du temps de notre ami. Bon, alors, pour permettre que de telles choses arrivent le moins possible, la perfection n'est pas de ce monde, eh bien, le chevalier avait ordre de la défense de la veuve et de l'orphelin. C'est les petits paysans.
C'est marrant, mais je croyais que depuis la fin des chevaliers, tout le monde devait défendre les plus faibles.
Oui, mais encore une fois, qui est-ce qui a lancé cette défense au point de vue organisation? C'est l'Église. Alors, les petits paysans, qui sans eux auraient été victimes de la barbarie de tous ces hommes, les grands seigneurs et tout ça, il y avait obligation pour les seigneurs de protéger les petits. Changement complet. De par leur serment de chevalier, les seigneurs étaient tenus de protéger les faibles et les petits. L'ont-ils toujours fait? Oui, alors n'allons pas non plus...
Si c'était pas si rare que ça, Robin des Bois serait pas si célèbre.
Exactement. Et donc, précisément, n'allons pas non plus dire que tout était gagné. Alors ceci va nous ramener à étudier le monachisme des XIe et XIIIe siècles en Occident. Le monachisme aux XIe et XIIIe siècles en Occident. L'étude de l'histoire de l'art au travers d'ouvrages et d'auteurs tels que, par exemple, le célèbre Émile Malle, Elifor, France Dupuis, Dr. Paul Toby, etc., nous pose de nombreuses questions dont une intrigue notre esprit. L'an 1000, ce mystérieux an 1000, où angoisse et délire apocalyptique se heurtent et s'entremêlent à l'espérance et au sentiment d'une vie qui triomphe de la mort. Le monde va disparaître, l'humanité sera anéantie, l'espérance est vaine, enfer, damnation, domine et triomphe sur la miséricorde divine. Il n'y a plus de miséricorde divine, s'écrient certains sectateurs chrétiens, croyant voir au travers du livre de l'Apocalypse de Saint Jean l'Évangéliste, rédigé vers 95 après Jésus-Christ, donc peu après le martyr des chrétiens déclenché par l'empereur romain Néron en 64, les désordres politiques de Galba, empereur de 68 à 69, la destruction de Jérusalem et de son temple, auquel les judéo-chrétiens restaient malgré tout attachés en juillet 70, par ordre de l'empereur Vespasien, les persécutions sous Domitien contre les chrétiens et les juifs entre 81 et 96, année où cet empereur mourut poignardé, le contexte politique, religieux, social, culturel généra un fort climat de peur apocalyptique parmi les chrétiens et les juifs. Rome.
Alors que pourtant, de nombreuses personnes croyaient au retour de Jésus-Christ.
Absolument.
Mais pour régler des comptes.
Tout à fait. Pour régler des comptes. Rome était la Babylone maudite et honnie, décrite par l'Apocalypse de Saint Jean, la bête immonde, la cité du 666. Les siècles passent, et souvent les monstres, les peurs, les angoisses du passé remontent à la surface et se mêlent à notre vie, ombre, lumière. Cette espèce de dualisme manichéen. Tour à tour, les invasions vandales, wisigothiques, les Huns du 5e siècle, les Arabes arrêtés en Poitou en 732, puis, entre 843 et 987, les invasions de Vikings en Normandie, surtout en 911, les sectes mystiques, délirantes, apparition du terrible mal des Ardents, dû à l'ergot de seigle, qui engendra la maladie de l'ergotisme, qui relève de l'intoxication, pour avant devenir convulsive ou gangréneuse. Connaissant mal cette intoxication, on crut y voir des possessions démoniaques. Cet ensemble de faits contribua à faire éclore le climat apocalyptique qui embrasa l'univers chrétien du monde occidental en l'an 1000. Pourtant, reste la question, n'y eut-il seulement que cette peur?
Mais non, on a même pas eu de bug en informatique. Hein.
Ah, mon Dieu.
On se retrouve, je sais pas si on se retrouve la semaine prochaine, Bernard Vacherot, ou si on laisse passer les vacances, qu'en dites-vous?
Comme vous voulez, peut-être peut-on se retrouver la semaine prochaine.
Ah ben écoutez, on demande à nos auditeurs de venir la semaine prochaine, ils verront bien.
Voilà, merci. Avec plaisir, mon cher.
Merci, Bernard Vacherot.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.